RMC Running,
Roxane Lacusca.
Salut à tous, bienvenue sur le podcast RMC Running dédié aujourd'hui au championnat d'Europe de running qui avait lieu à Bruxelles ce week-end du 12 et 13 avril. Et évidemment, pour débriefer tout ça, Maître Yodu, Johan Durand est avec moi. Salut Johan.
Salut à tous, salut Roxane, ça va?
Ouais, ça va. Bon, toi, t'as pas fait les Europe de running, t'as préféré faire le marathon de Paris, c'était le 13 avril. Comment ça s'est passé?
Non, mais moi, je fais pas 21 km, moi, j'en fais le double, tu vois. Je laisse 21 aux jeunes coureurs.
Bon, débrief à retrouver évidemment sur RMC Running. L'épisode est en ligne d'ailleurs, donc foncez l'écouter si ce n'est pas encore fait. Puis on félicite évidemment toute la team qu'on a suivie pendant ces 3 mois de préparation. Et nous, on s'attaque au débrief des championnats d'Europe de running. C'est parti.
RMC Running.
Et oui Johan, on va s'intéresser à d'autres athlètes qui ont eux aussi signé des records, mais pas n'importe lesquels, puisqu'on va accueillir des champions d'Europe. Et on démarre par Valentin Gondouin, qui a terminé 3e du semi-marathon. Salut Valentin.
Bonjour à tous, merci de me recevoir.
Merci à toi d'être avec nous. Bon, t'as pas battu ton record perso, mais t'es quand même allé chercher un podium sur ce semi-marathon. T'es fier de toi, j'imagine?
Ouais, totalement. Bah là, je savais déjà dès le début que c'était pas une course à record et qu'il y avait qu'une seule chose qui comptait, ça allait être le podium et la médaille. Donc vraiment, j'ai décroché de la montre juste pour le podium.
Tu boucles quand même le semi en 1:01:54. C'est quand même un beau chrono, Johan.
Ouais, alors après, voilà, c'est ça. On le savait déjà que le profil du parcours faisait que, en plus d'être un championnat, donc qui dit course de championnat, dit pas de lièvre, pas de meneur d'allure, donc certainement des courses qui se regardent, même si quand t'as Jimmy dans la course, bah, en fait, la course, ça se regarde jamais.
Jimmy Gresset qui a fini premier.
Ça part toujours vite. Mais effectivement, ouais, le but, c'est d'aller juste chercher la médaille et après... Et après le chrono, il est vraiment secondaire et il y a quoi, il y avait presque 90 mètres de dénivelé sur un semi, donc c'est quand même pas mal, ouais, avec deux grosses bosses. Valentin nous en parlera, mais il y avait deux grosses bosses, je crois au 5 et sur la fin de course, donc compliqué de faire un chrono, mais le plus important c'est la médaille, ouais.
Alors justement Valentin, parle-nous de ce parcours, il était un peu compliqué.
Ouais, il était vraiment atypique avec en fait une première partie dans Louvain où là c'était assez vallonné et ensuite du 4 au 18 vraiment tout plat dans la campagne belge et ensuite on revenait dans Louvain et là ça, les montagnes russes recommençaient, donc en fait les 80 mètres de D+, ils étaient concentrés au début et à la fin, ouais. Donc ce qui rend la chose encore plus difficile.
Comment s'est passée ta course toi personnellement, comment tu l'as vécu?
Bah, ça a été très très long. J'ai couru quasiment tout seul de A à Z. Je connaissais la stratégie de Jimmy de vouloir courir fort direct. Donc je m'étais dit que j'allais temporiser et être un peu pour essayer de ramasser les morts. C'est ce que j'ai fait, sauf que j'ai mis très longtemps à revenir sur l'Irlandais. Je reviens sur lui qu'au 18e, donc au bout d'un moment, je me suis dit putain, mais je vais jamais revenir sur lui, jusqu'à revenir dans Louvain. Et après, c'était vraiment au coude à coude jusqu'à la fin, jusqu'aux 50 derniers mètres.
Justement, tu as vu Jimmy partir comme une flèche. Tu savais qu'il allait partir vite, dès le début. Tu t'es pas dit, je vais essayer de le suivre et de l'accrocher. Tu t'es tout de suite dit, je vais faire mon truc à moi, je vais temporiser. Et ta stratégie à toi, c'était d'attaquer plus tard?
Bah, de base, on avait parlé avec Jimmy, il avait une stratégie de partir, on va dire, sur 2,50. C'était les bases de mon record, donc je m'étais dit que voilà, je prenais pas trop de risques en partant là-dessus. Sauf que, bah voilà, il est parti beaucoup plus vite que ça. Le premier kill de 44, le deuxième de 41. Et là, je me suis dit, bon, sois intelligent, laisse-toi décrocher et les deux devant, ils vont exploser à la fin. Et je pense que heureusement que j'ai pas suivi et que j'ai joué, on va dire, plutôt l'assurance.
C'était la bonne stratégie à adopter, Johan?
Oui, ah bah complètement, surtout... Quand tu regardes le profil, effectivement, il y avait cette bosse, une grosse bosse au bout de 3-4 bornes. Donc, ils sont passés en 13,52 devant. Valentin, il passe en 14,20. Donc, ça veut dire qu'il laisse 28 secondes de marge. Et pourtant, il rattrape le coureur irlandais. Non, c'était la bonne stratégie. Si c'était passé 14,10, effectivement, c'était des allures parfaites pour scotcher le groupe. Mais là, Jimmy a voulu leur faire mal d'entrée. Donc, effectivement, je pense que le podium, Valentin le gagne via ses 5 premiers kilomètres, où effectivement, il part 28 secondes en retrait par rapport à Guidei et Frem, mais sauf que lui, il s'est mis le couteau sous la gorge, et derrière, ça a été un long chemin de croix, quand Valentin l'avait en ligne de mire, est revenu sur lui, ouais. Et puis après, c'est le final, c'est le mental aussi qui fait la diff dans le final pour le sprint, ouais.
Alors justement, Valentin, raconte-nous ce final, t'as sprinté pour déposer l'Irlandais Efrem Guidei.
Ouais, c'est ça. En plus, j'ai pas trop confiance en mon sprint d'habitude, donc j'avais un peu peur d'aller que à 2 et à 100 mètres de l'arrivée. Donc en fait, depuis le 18e, j'ai essayé d'attaquer, j'ai attaqué 5-6 fois sur 20-30 mètres.
Vous êtes attaqué mutuellement
en essayant de mettre des à-coups, sauf que j'ai jamais réussi à le décrocher. Donc à la fin, de toute façon, il n'y avait plus que le sprint final et il restait une cartouche à mettre à la fin et c'était la bonne.
Ton objectif, c'était de faire top 5 ?
Ouais, on va dire que j'avais vraiment en tête le podium quand même, vis-à-vis des chronos désengagés, vis-à-vis de ce que j'avais fait sur semi-marathon à Séville et un mois avant aux 10 km de Lille. J'avais vraiment à cœur de faire podium. Après, entre ce qu'il y a sur le papier et faire le podium, c'est encore différent. Il faut le faire au moment venu, et c'est ça le plus dur à faire.
Oui, c'est vrai, Yoann, c'est ça qui est le plus dur à faire.
Bah ouais, après moi honnêtement dans le groupe on a le groupe WhatsApp de RMC Running et j'ai dit attention à surveiller Valentin Gondois, il peut faire vraiment un truc et parce que moi je te voyais vraiment sur le podium et parce que voilà, je t'avais vu à fond romeu surtout quand tu claques 27-23 il y a à peine 3 semaines que cet hiver tu as fait une 0-17 sur semi. Effectivement, tu étais dans les favoris mais après il y a le valoir et après il faut le faire et donc là bravo à toi parce que franchement c'est une perf de référence et c'est quelque chose qui à mon avis va te servir pour la suite et va te permettre de te débloquer sur certains secteurs. Ouais.
Bon, non seulement tu fais troisième de ces championnats d'Europe mais en plus tu es champion d'Europe par équipe avec Jimmy Gressier, ton coéquipier avec qui tu t'entraînes. Il est aussi avec nous, salut Jimmy.
Salut.
Bon Jimmy, toi tu fais champion d'Europe en individuel avec un super chrono en 59-45, t'améliores de 1 seconde ton chrono sur semi. Bon, même question que pour Valentin, j'imagine que t'es fier de toi.
Oui, je suis fier de moi, fier de la course que j'ai faite et puis fier de l'équipe.
Comment s'est passée ta course Jimmy, raconte-nous cette ambiance et comment toi t'as vécu ta course.
Pourquoi t'as toute dynamité d'entrée, voilà.
Et voilà, pourquoi t'as déposé tout le monde dès l'entrée.
C'est ce que je dis souvent à mes coéquipiers de l'équipe de France, parce qu'avant la course, on discutait pas mal de la stratégie de chacun. Et c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de dire que je peux avoir deux fils qui se touchent et puis courir vite et fort d'entrée. Je suis un puncher. J'aime bien... sentir les sensations, sentir la douleur, sentir que ça fait mal, parce que j'ai pour habitude de dire aussi que si ça me fait mal à moi, ça fait mal aux autres. Bon, après, bien sûr, il ne faut pas oublier le contexte. C'est un championnat d'Europe, ce n'est pas un championnat du monde, parce qu'au championnat du monde, si je m'amuse à faire ça, je vais me faire mal à moi et peut-être que à moi. Donc ouais. Là, je savais par contre que sur un championnat d'Europe, j'arrivais ultra favori et que moi, dans ma tête, je me suis dit « Ok, si ça me fait mal, ça fera mal aux autres et si tout se passe bien, tu iras au bout, tu gagneras. » Et voilà. Mais après, j'avais aussi une autre stratégie. C'était une stratégie un peu plus d'attente jusqu'au 5e, 6e kilomètre avec Valentin. On devait passer sur des allures de 2,50. Mais la première partie de course, elle fait quasiment que de descendre. Il y a une bonne butte au 3e kilomètre. Mais c'est tout. Et en fait, j'étais sur les premières allures en 2,44 au kilo. J'arrivais pas à ralentir. Je me dis, ok, c'est que je suis bien. Et en fait, quand je me suis retourné une fois, il n'y avait qu'un mec derrière moi. Je dis, mon gars, si tu continues à me coller, je pense que tu vas finir par sauter. Donc après, je ne me suis plus retourné. J'ai dit, allez, j'y vais.
Qu'est-ce que tu t'es dit, Valentin, en voyant Jimmy partir en flèche comme ça? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête?
Justement, je me suis dit, il n'a pas menti, les deux fils se sont touchés. Non, après, mais je savais que...
Ça a été une bonne stratégie pour écrémer et pour faire mal à Guidei Efrem. C'est comme ça que je pense que lui perd la troisième place. Hein.
Oui, oui, c'est sûr que s'il ne fait pas ça sur le premier 5 km, la course, elle est totalement différente.
Elle est différente, ouais.
Si Jamie n'est pas là, la course est totalement différente entre tous ceux qui sont derrière. Et moi, ça m'a plutôt convenu que ça court vite et que ça écrème très, très vite le peloton.
Johan, 59-45, c'est un chrono qui est monstrueux quand même. Monstrueux. Le record d'Europe, c'est 59-13, détenu par le franco-suisse Julien Wenders. Un premier kilo en 2,47, un 10 km passé en 27,50, c'est plus de 21 km/h.
C'est le 27,50 qui est costaud. Mais après, c'est Jimmy, on le connaît, on a tous suivi son hiver, il est en forme. Mais voilà, surtout, il a cette capacité à faire mal aux autres. C'est bon, et comme il le dit, ça fait mal à lui, mais ça fait mal aux autres. Et puis tu prends un coup sur la timbale quand t'as le mec qui est favori, qui d'entrée de jeu te place 2 kilos où ils te font mal à la tête. Oh, attends, enfin moi je me mets à la place de ses adversaires. Tu te dis bon ben voilà, ça y est, c'est comme quand Pogacar il attaque à 60 bornes de l'arrivée alors que derrière ils sont tous au taquet et tu le revois jamais, tu vois et même du coup. Jimmy, ça c'est quelque chose qui pourra se servir plus tard, c'est-à-dire que des fois où il est peut-être moins bien, il aura tellement un impact sur ses adversaires qu'il suffira qu'il mette une attaque à mi-course, même s'il n'est pas bien, les autres vont lâcher. Un ascendant psychologique sur ses adversaires, ouais.
Valentin et Jimmy, vous vous entraînez ensemble, votre entraîneur c'est Adrien Taouji, pardon. Comment s'est passée votre préparation justement pour ce semi-marathon? Vous avez fait un stage
dans
à Font-Romeu?
Ils ont fait Rocky 4.
Tu vas pas dans la neige, Johan.
On a fait un stage à Font-Romeu ensemble avec Valentin. Ça fait à peu près 4-5 ans qu'on a le même coach, Adrien Taouji. Et donc, on essaye de se rassembler avec Valentin sur des stages d'entraînement. Et là, le choix, c'était Font-Romeu. Je vous avoue que les premiers 10 jours, on a bien souffert. Il faisait quand même sacrément froid, la neige. On s'est tapé des 16 fois 1000, sous la neige, des 7 fois 2000. Et le choix, c'était de monter en altitude pour descendre. Et moi, pour ma part, j'ai eu des très bonnes sensations en descendant. Valentin a eu un petit peu chaud pendant la course apparemment. Moi, j'ai pas eu si chaud que ça. Je trouvais que les conditions elles étaient plutôt bonnes. Il y avait quand même pas mal de vent, mais au niveau de la chaleur, ça m'a aidé. Alors que pourtant, on n'a pas choisi le meilleur endroit entre guillemets du monde pour aller chercher la chaleur, pour préparer une course dans la chaleur. Mais en même temps, on se doutait pas que à Bruxelles, ce jour-là, enfin à Louvain, ce jour-là, un samedi 12 avril, il allait faire déjà presque 20 degrés dès 10h du matin.
Tu confirmes, Valentin?
Ouais, totalement. Je pense que déjà le facteur chaleur m'a fait mal d'entrer, surtout dès qu'on sort de Louvain, et ben on n'est plus abrité, on n'a plus d'ombre et on était en plein soleil. Donc c'est sûr, c'était
normal aussi, hein, faut le dire.
Ouais.
Le soleil, tu le vois pas, peu.
C'est pas là où je suis le meilleur, quoi.
Un titre par équipe, vous l'avez remporté avec Bastien Augusto qui termine 15e en 1,02,58 et avec Raphaël Montoya qui termine 16e en 1,03,16. Un titre par équipe, quand on fait un sport individuel, c'est particulier quand même, les gars.
Pas totalement.
La chose qu'on a,
et puis je pense que
Valentin et moi. Pardon.
Vas-y, Jimmy, vas-y.
Valentin et moi, on a fait tous les deux du foot. Donc on a cet esprit collectif qui nous réunit. Et en fait, c'est les médailles en individuel, c'est cool, mais on les partage un peu seul. Donc on est quasiment seul avec peut-être son coach et un peu son entourage à ressentir ce bien-être. Mais même le coach ne peut pas ressentir ce qu'on vit exactement sur le moment. Il n'y a que les autres athlètes autour de nous avec qui on fait la médaille en équipe, qui ressentent ce moment de joie parce que c'est un moment de libération. On est tous quasiment à bloc sur la course et c'est l'arrivée, c'est un peu la délivrance de 21 km pour ma part couru tout seul, donc c'était assez long. Pour Valentin, il a fait une grosse partie de la course aussi seul. Valentin, il va chercher la médaille en individuel, mais c'était pas gagné encore à 50 mètres de l'arrivée, il a dû batailler. Et ouais. Puis pour tous les autres, c'est d'arriver à la fin et de se dire ok, est-ce qu'on a la médaille par équipe, oui ou non. Ils arrivent et tout de suite on leur dit oui, on a gagné. Et pour eux, c'est une délivrance parce que même si ils ont fini sur des places où ils auraient espéré un peu mieux, et ben quand t'arrives, que t'en chies, tu te dis j'espère au moins à l'arrivée qu'on aura notre médaille d'or par équipe, parce que c'était ce qu'on était venu chercher. On n'en voulait pas de la deuxième place, on n'en voulait pas de la troisième place. Et en fait, bah, on voulait chanter la Marseillaise tous ensemble. Et bah, à la fin, quand on sait que c'est fait, on sait que tout le monde en a chié. Et bah, moi, pour ma part, je suis hyper fier d'apporter pierre à l'édifice pour des mecs derrière comme Montoya ou comme Bastien qui s'entraînent très dur toute l'année. Et sur ce championnat-là, ils l'ont peut-être un peu moins réussi sur le plan personnel. Mais cette médaille, c'est aussi ben, pour récompenser tout le travail qu'ils font à longueur d'année. Et Valentin et moi, aujourd'hui, on est sur la boîte. C'est nous qui sommes mis en avant. Mais il y a aussi tous ces gars-là qui méritent d'être mis en avant. Et c'est pour ça que la médaille par équipe, elle a une saveur aussi particulière.
Valentin, c'est quoi ton programme à venir et quels sont tes prochains objectifs ?
Et bien là, je vais prendre 2-3 jours de repos pour me remettre de tout ça. Et ensuite, je vais enchaîner avec de la piste. Je vais basculer sur la piste avec la Coupe d'Europe du 10 000 le 24 mai. Et après, un petit peu de 5 000 avec un gros objectif plutôt à l'automne ensuite sur marathon. Je vais revenir aux sources.
Très bien, bah merci Valentin. Bon courage pour la suite et puis tu reviendras nous voir quand tu auras rempli tes objectifs. On sera ravis de te recevoir de nouveau sur RMC Running.
Ça marche, merci beaucoup.
Jimmy, on continue avec toi. Tu as fait, donc, on disait, un chrono en 59-45. L'objectif à terme, c'est de passer sous les 59 minutes pour le semi-marathon.
Oui, l'objectif, c'est de passer sous les 59 minutes. En vrai, pendant la course, c'était un peu fou, hein, c'était un pari fou, mais je me refuse aucun rêve. Je doute pas de moi, je me mets aucune limite, je sais pas de quoi mon corps est capable. Et en fait, je me dis le seul moyen de savoir de quoi il est capable, bah, c'est de le pousser jusqu'à temps qu'il me dise bah, un stop. Et là, c'est ce que j'ai fait ce week-end. Honnêtement, dans ma tête, j'avais le record d'Europe de 59-13. Je voulais aller le chercher tout seul pour que ça marque vraiment l'histoire, pour qu'on dise, pour que les gens se rendent compte aussi qu'à un moment donné, quand on veut aller chercher des choses et qu'on s'en donne les moyens, on peut aller les chercher seul soi-même aussi. Sauf que l'histoire retiendra que ben, 59-13, on les fait pas seul, surtout pas avec beaucoup trop rapide au début et 10 km vent de face pour revenir tout seul, avec des côtes aussi. Mais comme je dis, je suis un peu timbré dans ma tête et j'ai peur de rien. Honnêtement, j'ai peur de rien parce que en fait, moi, l'athlète, la course à pied, je le prends vraiment comme un plaisir. Je le prends aussi comme mon métier parce qu'aujourd'hui, c'est mon métier et je me dis que j'ai de la chance de faire un métier plaisir. Et en fait, je me dis que kiffe, fais ce que tu as à faire, entreprends, prends des risques, tente et tu verras ce qui se passera. Mais oui, bien évidemment, aujourd'hui, la première chose qu'il m'a dit mon coach quand j'ai fini, il me connaît très bien, il voyait comment je courais sur les allures. En plus, moi, sincèrement, les allures, je les trouve vraiment, enfin, en tout cas, dans la motricité, dans le mouvement en action, quand je cours vraiment mécaniquement, je trouve que c'est des allures lentes. Enfin, maintenant, aujourd'hui, avant, je ne les trouvais pas lentes, les allures. Mais le fait d'avoir passé un cap aujourd'hui sur 3000 mètres, sur 5000 mètres, courir à des allures de 2,30, 2,35, quand on me demande de courir à 2,48, j'ai pas fait de marathon. Hein, mais en tout cas, pour avoir discuté avec des marathoniens, j'ai vraiment l'impression de ressentir ce qu'eux ressentent sur leurs allures marathon. Mais moi, sur 21 km, c'est-à-dire que sur la première partie de course, même jusqu'au 15e, je me dis, mais en fait, j'ai pas besoin de pousser, j'ai pas besoin de rien faire, enfin de faire grand chose au niveau de la force au sol. Par contre, ce qui est impactant, c'est l'accumulation des kilomètres. Et une fois qu'on commence à passer après le 15e, là ça commence à être un peu plus long et on commence à perdre un peu plus de force. Mais on va dire au niveau cardiaque, toute la course, je suis sur un plateau. Je pense que je dois faire 162 de moyenne au niveau cardio. C'est pas très élevé. Après, je suis pas quelqu'un qui monte hyper haut. Je suis quand même quelqu'un qui descend la nuit en pleine forme à 27, 28, 29. Ça tourne dans ces eaux-là. Mais du coup, c'est vrai que bah là, ça me laisse de grosses perspectives d'avenir sur le semi-marathon et une envie de faire ce que mon coach me promet. Mon coach me promet dans ma carrière un chrono à 58-30. Donc j'espère aller les chercher un jour, mais chaque chose en son temps. D'abord essayer de battre le record d'Europe et ensuite de passer sous les 59. Mais moi, je dis à chaque fois à mon coach que si je passe sous les 59, je serai déjà très très heureux. et il me dit mais on va pas s'arrêter là, on va pas aller chercher que 59. Et je pense que c'est l'une des grandes forces aujourd'hui de mon coach Adrien Taouji, c'est que en fait moi j'ai l'impression que quand je lui parle de chrono fou, je me dis il va me dire ouais, calme-toi. Mais avec moi, j'ai l'impression qu'il me dit jamais calme-toi. Il me dit mais non, mais Jimmy, on va aller plus vite que ça, t'es sérieux?
Johan, c'est vrai que c'est important, ça aide.
M'enlève des barrières aussi.
Ça aide ce passé, Johan, de sur le 5000, tout ce bagage qu'a Jimmy, ça aide pour pouvoir faire des belles perfs sur des distances un peu plus longues.
Oui, bah complètement. Bah, il l'a très bien dit. Hein. Quand tu es capable de faire 5 fois 1000 à 2,35, quand tu passes en 2,48, effectivement, tu as une marge importante. Et après, surtout, c'est parce qu'il en a couru aussi. C'était quoi, ton 3 ou 4e semi. Donc, il a aussi maintenant l'expérience de la distance. Il sait que sur semi, c'est 15 bornes au seuil et 6 bornes où c'est compliqué. Sur marathon, on dit toujours c'est 30 km de footing et 12 km compliqués. Donc ça c'est l'expérience de la course aussi qui fait que maintenant il connaît cette sensation, il connaît cette douleur et il est capable de l'appréhender. Mais effectivement, moi je le vois en moins de 59 sur un semi hyper roulant, hyper plat, dans des bonnes conditions avec de la vraie densité. Il peut courir assez rapidement en 59-0. Là, c'est ce que ça vaut. Hein. 59-45 sur ce parcours en courant solo avec le dénivelé, le vent et un départ rapide. Bah là, il vaut déjà largement 59-0.
Jimmy, raconte-nous ton arrivée quand tu as passé la ligne. Tu as fait signe aux organisateurs de baisser la ligne d'arrivée.
Ils n'ont pas trop compris. Et moi, j'aurais levé encore pour voir si c'est un vrai stipleur.
T'as sauté par-dessus un clin d'œil aux 3000 stiples.
Ouais, bah en fait, la veille, European Athletic m'avait demandé en conférence de presse quelle célébration j'allais faire. Et en fait, moi, je suis joueur. Et aujourd'hui, je suis rentré un peu dans un truc où on attend une célébration qui va faire parler, une célébration qui va être joyeuse, une célébration peut-être sans faire exprès aussi, qui peut parfois être un petit peu polémique.
Comme à Tilburg.
Toujours, mes célébrations, c'est avec beaucoup de respect. Mais là, c'est vrai que du coup, je voulais faire un clin d'œil aux 3000 mètres de steeple. La distance que je vais reprendre cette année, j'ai fait il y a 4 ans, 8,24 sur 3000 mètres de steeple. Le premier de ma vie, honnêtement, la veille, j'arrivais pas à passer une rivière. Enfin, impossible. Et pendant la course, j'ai fait 8,24. Et mon coach m'avait dit, c'est un escroc un peu, parce qu'il m'avait dit, si tu arrives à faire moins de 8,30 sur le premier, je peux t'assurer que derrière, on ira sur steeple et on essaiera d'aller chercher des gros chronos sur steeple. Sauf qu'une fois mon steeple fini, il m'a dit, ah, mais quand même, finalement, on va essayer d'aller chercher des gros chronos sur 5000 mètres aussi, parce que moi, je vois que dans ton profil, tu es capable de courir vite. Et donc, en fait, c'est ce qu'on a fait. Et là, maintenant que je suis passé sous les 12,55, je lui ai dit, bon, ok, d'accord. Et maintenant que j'ai fait et que je ne vaux plus 7,30, que là, je les ai validés, parce que c'est bien de dire valoir. Moi, des athlètes, j'en ai entendu plein dire je vaux tant.
Il faut faire. Hein.
Certainement et sûrement. Sauf qu'entre valoir et faire, il y a un autre monde. Et moi, aujourd'hui, on m'a souvent dit que je valais moins de 7,30 ou 7,30. Aujourd'hui, ok, j'ai fait 7,30 en salle. C'est pareil, je sais que je vaux 7,26, 7,27 cet été. D'ailleurs, je vais sûrement tenter un 3000 mètres pour courir ce chrono-là. Sauf que je ne les ai pas encore fait. Je les vaux, j'en suis quasi sûr, je ne les ai pas encore fait. Mais quand tu vaux 7,30 au 3000, même si techniquement, pour l'instant, la première année, tu n'es peut-être pas très bon.
Et tu vises combien sur le 3000 steeple?
Aux alentours des 8,05 d'ici cette année à l'année prochaine. Et quand on sait que 8,05, ça se rapproche de la médaille au championnat du monde, ça fait même peut-être médaille. Et c'est une bonne perspective pour se dire, ok, peut-être que pour Los Angeles, c'est peut-être la distance où j'ai le plus de chances de faire la médaille aux Jeux Olympiques. Et comme je le dis aujourd'hui, je suis dans une position d'opportuniste à aller vouloir chercher les médailles au niveau mondial sur la distance sur laquelle j'ai le plus de chance. Donc c'est peut-être entre guillemets défaitiste de parler comme ça, mais sur 5000 mètres, 10000 mètres, je suis conscient que j'ai quasiment aucune chance aujourd'hui, on va dire peut-être 20% de chance d'aller chercher une médaille, même si je continue à progresser. La densité est tellement incroyable, et surtout sur les chronos que j'envisage de faire, il y a encore quelque chose de moins que les autres sur cette distance là. Et donc le 3000 mètres steeple, c'est un peu une opportunité de se dire ok, on va se rapprocher de l'ail. Et pour finir finir pour expliquer pourquoi j'aurais demandé de descendre la banderole, c'est que je pense qu'il l'avait quasiment mis au-dessus de ma tête, la banderole. Donc déjà, même si j'arrivais normalement, je l'aurais prise dans la figure. Enfin, en tout cas, c'est peut-être les 21 bornes qui m'ont tourné le cerveau et du coup, du loin, je jaugeais mal la banderole. Mais je leur ai demandé de baisser, ils me regardaient et moi, j'étais fatigué. Ah ouais. C'est pour ça que...
Il faut avoir la lucidité.
Ça... Bah oui, en fait, et puis je suis fatigué, j'arrive, il y a 21 bornes, je leur demande depuis 100 mètres, j'ai le bras, ouais. Il est lactique parce que je leur demande de baisser. J'en peux plus, mon bras, il est tout lourd. Pas. Et ils baissent pas. Et donc, du coup, j'essaye de leur montrer, baisser, parce que sinon, là, je vais me tuer. Et donc, en fait, du coup, heureusement pour moi, ils ont baissé la banderole. Je l'ai passée, mais un petit peu plus haut, je me la prenais dans les pattes. Et là, je n'aurais pas fait 3000 mètres de type.
T'aurais pu faire rien.
Ouais.
Bon, donc, on te donne rendez-vous pour les mondiaux sur 3000 steeple, alors.
Ouais, ben, d'abord, on se donne rendez-vous à Paris, à la Diamond League de Paris, sur 3000 mètres de steeple. Ensuite on verra le chrono et j'ai pas dit que je faisais les championnats du monde sur 3000 mètres steeple non plus. J'ai dit simplement que pour l'instant j'allais faire mon premier 3000 mètres steeple et ensuite on verra ce que ça donne et puis tranquillement on se dirigera sur cette distance si c'est prometteur et si je fais un chrono aux alentours des 8-15 dans ces eaux là j'y irai pas, c'est sûr et certain. Ça reste quand même un très très gros chrono, mais par contre ça voudrait dire qu'il y ait quasiment 45 secondes entre mon plat et mon steeple. Faut se rendre à l'évidence, c'est que je suis pas steepleur.
On l'a vu dimanche, c'est bon.
Tu reviendras de façon sur RMC Running pour nous raconter tout ça et puis on suivra ta préparation pour les mondiaux. Merci Jimmy d'avoir été avec nous.
Merci Jimmy, bonnes vacances.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Et Johan, on continue d'accueillir des champions d'Europe dans RMC Running. On continue le débrief de ces championnats d'Europe de running en accueillant le champion sur le 10 km. Yann Schrub est avec nous. Salut Yann.
Salut, j'espère que vous allez bien. Quand vous dites on continue, ça veut dire qu'il y en avait déjà quelques-uns qui sont passés.
Et oui, on vient d'accueillir Jimmy Gressier, évidemment.
On a eu la chance justement. D'avoir Jimmy et Valentin, donc et on Valentin. A deux médaillés déjà.
Parfait. Donc il en manque encore pas mal, hein, parce qu'on était... On était une bonne dizaine à être par équipe aussi. Hein.
Ouais. C'est vrai qu'il y a eu des beaux résultats sur toutes les courses. Toi, tu termines premier quand même. Félicitations Yann, tu termines les 10 km en 27 minutes et 37 secondes.
Merci beaucoup.
Comment s'est passée ta course? Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est déroulé?
Ouais, ben, j'étais déjà bien préparé à cette course. C'est vrai que j'en faisais un peu l'objectif de l'hiver en passant par le 3000 mètres de Metz, le 5 bornes de Lille, mais je voulais vraiment que j'arrive avec un petit pic de forme. Donc, j'étais vraiment bien préparé. Quand on est bien préparé, forcément, on vit les choses quand même mieux. On arrive avec plus de confiance. Et c'est vrai qu'en fait, la course, j'ai une chance aussi énorme, c'est que les fins de course, je peux miser sur les fins de course. Donc, moi, ma stratégie, c'était vraiment de suivre et de jouer sur le finish. Et c'est vrai que quand on s'est vite décroché à 3, pour moi, c'était tout bénef parce qu'on m'amenait un petit peu, on m'amenait le finish sur un plateau, quoi, entre guillemets. Donc moi, le scénario de course était parfait. C'est vrai que j'étais prêt à des scénarios de course plutôt rapides dès le début. Jimmy m'a bien montré à Lille qu'il fallait que je sois prêt à tout type de scénario. Donc à Lille, c'était vraiment un scénario où on part très, très vite en 5.05 ou 2000. Et donc, arrivé aux Europes, je me suis dit, le finish, je connais. La course au train, j'ai pu avoir un bon entraînement à Lille. Donc, j'étais vraiment prêt psychologiquement à tout type de scénario. Et puis, c'était le meilleur qui s'est produit, c'est-à-dire une course entre les deux, où on part vite, mais pas trop. Et puis, où j'ai pu m'exprimer sur les derniers mètres de course, où j'ai pu mettre une accélération. Donc vraiment top. Et puis, les gens m'ont bien, bien répondu comme je le souhaitais, donc la préparation s'est bien déroulée, donc tant mieux.
Yann, il a décidé d'adopter la stratégie inverse de Jimmy. Jimmy nous a raconté tout à l'heure que lui était parti bille en tête, seul, dès les premiers kilomètres pour déposer tout le monde. Exactement. Ouais, les fils ne se sont pas touchés.
C'est propre à chacun. Chacun joue avec ses stratégies, chacun joue avec ses forces et ses faiblesses. Et après, il y a aussi le parcours. Hein. On en a parlé sur le semi, mais ouais. sur le 10 km, c'est pareil. Il y avait quand même pas mal de dénivelé. Quand tu as presque 70 mètres de dénivelé sur un 10 km, il faut faire attention au boss. Donc, effectivement, je pense que la course d'attente, comme Yann le sait, et surtout s'il a confiance en son finish, et il peut avoir confiance en son finish parce que, effectivement, effectivement, ces deux sorties, que ce soit à Metz ou à Lille, étaient rassurantes sur le 3000 et 5000. Donc, effectivement, ouais, quand tu as les armes et que tu sais que tu peux finir vite, bah, tu peux faire une course d'attente, quoi.
Ouais. Tu peux nous... Ouais, c'est ça, mais en fait, c'est vrai qu'on a deux profils complètement différents. Jimmy, il aime se faire mal. En fait, tu as tout bien résumé. Hein. Je pense que des fois, ça disjoncte en haut. Hein. Et c'est vrai qu'en se disant, je pars en 13,52 sur un premier 5 km avec la côte, sur un semi. Côte, ouais. Je pense qu'effectivement, chez lui, je pense qu'il doit manquer une partie de son cerveau là où se gère le centre de la douleur. Donc c'est un avantage pour lui, hein, parce que en fait à Lille, il a vraiment bien joué parce qu'il m'a émoussé avant la fin et il m'a mis 3 secondes en 300 mètres parce que j'avais vraiment plus rien. Et c'est vrai qu'il joue avec ses atouts. Moi, j'essaie de jouer avec les miens et heureusement pour moi, j'ai pu jouer avec les miens. Maintenant, il y a du travail à faire pour que je sois un petit peu comme Jimmy, un profil un peu plus sur des attaques très tôt et du train. Parce que maintenant, j'ai des médailles, mais comme Jimmy a les chronos, on essaie de se croiser. Où j'aimerais bien avoir maintenant des records perso très bons, voire des records de France, des records d'Europe. Maintenant, c'est aussi mon objectif d'aller chercher ça. Donc on verra, mais j'essaye de lui ressembler sur ce plan-là, comme je pense que lui essaye de me ressembler sur le plan des médailles, quoi. Donc c'est vraiment enrichissant pour nous deux, je pense.
Messieurs, vous évoquiez à l'instant le parcours du 10 km. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment c'était, Yann, ce parcours ?
Eh ben, c'était un parcours qui était, pour moi, je trouvais assez facile. J'avais de l'appréhension, j'ai bien préparé aussi des courses au train, mais dans des côtes. Donc on a préparé ça aussi avec mon coach. On travaillait sur des 1800 mètres avec des petites côtes à 2 minutes 40, 2 minutes 42 kilos. Donc, on a préparé tout type de scénario, mais aussi on a préparé ces côtes. Donc, moi, quand je suis arrivé dans les côtes, je ne ressentais pas grand-chose, mais il faut dire aussi qu'on n'était pas sur des bases très rapides. Donc, on termine en 27-37, qui est un bon chrono, mais je pense qu'en ce moment, les trois premiers valent pas loin de 27-0. Donc, quand on a 30 secondes de marge, sur un parcours comme ça, c'est vrai qu'on peut vivre un peu mieux ces difficultés de terrain. Et je pense que c'est vrai que moi, je n'ai pas trop souffert, donc tant mieux. Donc, je n'ai pas trop de souvenirs non plus de ce parcours comme étant exigeant, quoi.
Yann, tu étais favori de la course. Comment tu as vécu ce statut ?
Alors, favori, oui et non, parce qu'il y a quand même Dominique Loubalou, c'était un petit peu la revanche aussi avec Dominique Loubalou qui m'avait battu à Rome. Que j'ai bien battu à Metz, certes, mais un 3000, c'est pas un 10 bornes ou un 10 000. Donc, il y avait lui, il y avait Isaac Kimeli, qui avait quand même fait 27-10 en janvier et qui a fait 6e ou 7e des Jeux Olympiques sur 5000. Il y avait Étienne, qui est le recordman de France quand même du 10 bornes. J'en oublie plein, mais il y avait Nordas, qui a fait une médaille au championnat du monde, qui, lui, sur des courses à 27-37, il aurait pu aussi avoir un petit finish et il aurait pu me déranger sur les derniers mètres. Donc non, j'étais favori, mais comme les quatre autres étaient favoris, je pense. Donc je me mettais pas de la pression tant sur le plan favori. C'est juste que la veille, Jimmy qui fait une course monumentale sur semi que j'ai regardé de A à Z, forcément il m'a mis de la pression, mais de la bonne pression, hein, bien sûr. Hein, c'est de la rivalité saine, comme je le dis souvent. Et c'est vrai que quand on veut performer, quand on veut être bien placé au niveau français, quand Jimmy fait une médaille d'or, on veut essayer de ressembler au meilleur français, donc je voulais absolument faire cette médaille d'or pour lui répondre et lui dire que qu'on est tous les deux au top et qu'on se titille. Et je pense que ça pousse tout le monde vers le haut. La preuve, c'est qu'Étienne, il fait 2, Valentin fait 3, par équipe, on fait premier de chaque discipline. Et comme je disais à Fabien Palco, qui finit 4, il faut qu'il le voit comme une bonne progression, comme un step de passé, et que ça va lui servir pour plus tard, pour après. Enfin marcher mettre le pied sur la troisième place du podium. C'est plein de choses qui sont bonnes pour Jimmy et moi, mais pour les autres Français aussi et pour tous ceux qui aiment la course à pied, je pense.
Ouais, Johan, cette concurrence saine, c'est hyper positif pour les progrès de chacun.
Ah, complètement. Exactement. Les résultats sont très bons. Tu as quand même tu as deux médailles d'or, tu as Valentin Gondouin et Étienne Daguinos qui font un podium, tu as 7 coureurs dans le top 10 avec Megdes Woldou qui fait 8e du 10K et Mélodie Julien 10e du marathon, tu as Fabien donc 4e du 10K. Donc effectivement, c'est des très bons résultats, c'est une vraie génération qui se titille, qui se pousse et donc c'est très bien pour l'athlétisme français et d'avoir les deux têtes d'affiche, Jimmy et Yann, qui en plus quand même répondent présents. Enfin, Yann, effectivement, 4 championnats d'Europe, 4 médailles. Donc, il répond présent à chaque fois qu'il est là. Donc, c'est super important pour l'athlète français, la visibilité et la notoriété de notre sport. Ouais.
Est-ce que, Johan, tu penses que c'est l'une des meilleures générations qu'on a jamais eues en France en running ?
Ah mais oui sur le volume d'athlètes ouais sur la densité effectivement non c'est une grosse génération donc non là-dessus il y a rien à dire chez les gars, chez les filles ça commence à être mieux qu'il y a quelques années. Il y a une petite génération qui à mon avis va monter va prendre le temps mais va venir aussi on le voit sur marathon avec Mélodie Julien avec Mélodie Rollin, avec Manon Trapp, plus Megdes qui est un peu plus âgé. Mais effectivement, tu as toute cette génération qui pousse aussi chez les filles. Donc non, l'athlète français sur le demi-fond se porte bien, ouais, clairement.
Yann, vous faites un doublé avec Étienne Daguinos qui arrive lui deuxième. Vous êtes tous les deux sur le podium. Vous êtes champion d'Europe aussi par équipe avec Fabien Palco qui termine quatrième. C'est un plaisir immense de pouvoir partager ça avec ses copains.
Ouais, en fait, t'as cité les trois premiers, mais les deux autres sont tout aussi importants, Simon et Baptiste. Parce que, comme le disait Johan, il y a une émulation positive et cette émulation-là, si nous on fait des résultats devant, c'est que ça pousse. Je prends l'exemple de Jimmy qui était très mal à Alon parce que Étienne venait de battre un record d'Europe de dingue, il lui avait pris le record d'Europe. Donc ça poussait Jimmy à se surmotiver derrière pour aller chercher des chronos. Je prends mon exemple où je bats le record d'Europe de 12 secondes, mais ça suffit pas pour battre le nouveau record d'Europe puisque Jimmy est devant. Donc en fait, en France, on a une émulation de dingue. Et je pense que la récompense qu'on puisse avoir de cette émulation, c'est les podiums par équipe, parce que c'est là où tout le monde est récompensé de tout ce travail, parce que malheureusement, souvent, c'est ceux qui sont sur le podium qui sont mis en avant, d'autant plus celui qui gagne, parce que je pense qu'Étienne mérite une visibilité encore plus que ce qu'il a eu, parce qu'il est jeune, parce qu'il est quand même recordman de France et que c'est son premier podium international. Donc malheureusement, tu as toujours le premier Français qui cache un peu la visibilité de l'autre. Je l'ai vécu il y a un mois à Lille où, pour moi, la course que je fais est quand même pas mal parce qu'il fait le
temps
du 13-0 et en passant très rapidement, en sachant que ce n'est pas mon type de course, mais derrière, tu as un Jimmy qui est devant. Donc un autre Français devant te cache la visibilité, c'est le jeu. Et je pense que les podiums par équipe, comme on les a vécus, c'est ce qui nous permet vraiment de nous rassembler et de valider tout le travail qu'on fait ensemble, parce que je pense que même si chacun travaille dans son coin, ça donne des performances collectives et la Marseillaise qu'on a pu vivre par équipe était vraiment incroyable.
Yann, je voulais évoquer avec toi, tu as repris tes études de médecine. C'est pas trop dur de concilier entraînement et études qui sont très prenantes ?
C'est à double tranchant. Alors, j'ai vécu 2 années plus ou moins tranquilles de fin 2022 jusqu'aux Jeux Olympiques. Qui était physiquement, j'étais physiquement très libre hein, de pouvoir faire ce que je veux au niveau des entraînements, mettre en place de nouvelles choses, sans changer trop de choses non plus, parce que les Jeux Olympiques, c'est quand même un événement, donc on ne peut pas tout changer. Par contre, psychologiquement, c'était beaucoup plus dur, parce qu'on pense qu'à la course, on pense qu'aux échéances, il y a la pression qui monte beaucoup plus tôt, on parlait des Jeux Olympiques tout le temps, donc je n'avais pas d'échappatoire au niveau psychologique. Cette année, à la différence de il y a 2 ans ou de l'année dernière, je peux avoir un échappatoire psychologique, je travaille, donc quand je travaille, je pense pas à la course, je ne stresse pas, mon cardio ne monte pas pour rien non plus, parce que des fois je suis au lit et mon cardio monte tout simplement parce que je pense aux différents scénarios qui peut se passer dans les courses. J'ai cet échappatoire-là, malheureusement, c'est vrai que faire ces horaires-là fait que je m'entraîne moins, donc physiquement je suis peut-être moins bien, mais j'ai compris quand même une chose, c'est que le psychologique est plus important que le physique. Bien sûr, s'entraîner, c'est important, mais s'entraîner en étant psychologiquement bien, c'est d'autant plus important. Donc moi, là, je vis une très belle vie, d'autant plus que j'aime ce que je fais cette année. J'ai de la médecine du sport aussi, qui est vraiment, pour moi, ça a toujours été un rêve d'être médecin du sport. Donc je m'épanouis dans ce que je fais avec des chefs qui sont très agréables au niveau médecine générale, au niveau médecine du sport. Donc, même au niveau gynéco, la journée que je fais par semaine, tout se passe bien. Et c'est vrai que je m'épanouis dans ce que je fais au niveau professionnel, même si je m'entraîne moins. J'arrive dans des championnats en étant psychologiquement 100% frais, quoi.
C'est important, Johan, d'avoir un échappatoire comme ça à côté aussi, quand on est sportif de haut niveau, de pouvoir un peu se défouler ailleurs pas être tout le temps fixé sur ses objectifs à venir.
Ouais, ça après, voilà, c'est propre à chacun. C'est vraiment, il faut le ressentir au plus profond de soi, savoir si est-ce que j'ai besoin de couper avec l'athlète ou est-ce que je peux rester 100% focus. Mais c'est vrai que ces échappatoires sont quand même importants. Moi, je l'ai vécu quand j'étais blessé, il y a 2-3 ans de ça. Et effectivement, si t'as rien d'autre que la course à pied, si tu vis course à pied à 100%, quand t'es blessé ou quand ça se passe mal, je peux te dire que tu trouves le temps long et tu rumines et tu ressasses et t'es triste. Enfin, t'as l'impression qu'il n'y a plus rien qui te tient, alors qu'effectivement, quand tu as tes cours ou autre, ou un travail ou une activité différente, tu as toujours ce petit moment de break où tu ne penses pas à 100% atteler, et quelquefois c'est bien, mais ça c'est vraiment propre à chacun.
Yann, c'est quoi tes prochaines échéances?
Là, du coup, je me repose 5 jours. Donc
vacances.
il me reste encore un jour de repos demain. Et après, on reprend le chemin de l'entraînement et j'ai la chance de pouvoir d'avoir pris 3 semaines de congé pour partir en Afrique du Sud vendredi prochain et préparer la saison estivale. Donc, ce sera essentiellement l'objectif, ce sera essentiellement la Diamond League de Paris sur 5000 où je vise un gros chrono. Donc après, il y aura peut-être des courses préparatoires, mais ce sera avant tout au mois de juin le 5000 de la Diamond League. Ouais.
Merci Yann, merci Johan. On conclut sur ces championnats d'Europe de running. Merci Johan. C'est inspirant pour tous ces athlètes. Là, ça donne envie de retourner chausser ses chaussures et pour repartir
gars,
courir.
C'est ça qui est sympa.
Merci à tous d'avoir suivi ce débrief des championnats d'Europe de running. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, sur les plateformes d'écoute et puis sur tous nos réseaux sociaux. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode de RMC Running. Ciao.
RMC Running.